Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Mes frères, ces paroles de notre Seigneur dans l'évangile de ce 16e dimanche après la Pentecôte sont une invitation à méditer quelques instants sur la vertu d'humilité, une vertu qui était totalement inconnue des anciens païens, et une vertu qui, aujourd'hui, dans la société néo-païenne dans laquelle nous nous trouvons, une vertu qui est incomprise et voire méprisée. Pourtant, la première étape, cette vertu est la première étape pour être sauvé. Elle est le fondement de toutes les vertus et leur sauvegarde. Bien sûr, il faut bien la comprendre. L'humilité est mal connue, en fait. On imagine qu'elle consiste à s'abaisser continuellement, ce qui n'est pas très attirant. Alors, qu'est-ce que l'humilité ? Eh bien, saint Thomas d'Aquin dit que l'humilité est une vertu qui se trouve dans la volonté et qui nous empêche de nous élever au-dessus de ce que nous sommes. Ce qui veut dire que la règle de l'humilité, c'est la vérité. L'humilité, c'est la vertu qui nous aide à vivre dans la vérité. Vérité dans nos rapports avec Dieu, vérité dans nos rapports avec le prochain. Alors, vérité dans nos rapports avec Dieu d'abord. Que sommes-nous en face de Dieu? Eh bien, Dieu est notre Créateur. C'est-à-dire que sans lui, nous serions restés dans le néant et nous y retournerions aussitôt s'il ne nous soutenait à tout instant dans l'existence. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, dit saint Paul. Et ceci vaut pour la vie naturelle de tous les hommes sur cette terre. Quant à notre salut éternel, eh bien, écoutons ce que nous dit encore saint Paul. Nous ne sommes pas capables de nous-mêmes, comme venant de nous-mêmes, de la moindre pensée profitable pour notre salut. La moindre pensée. Ou encore, personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Vous voyez, notre dépendance. Et il faut aller encore plus loin. Depuis le péché, ce n'est pas seulement notre dépendance absolue à l'égard de Dieu qu'il faut reconnaître, il y a une autre vérité. C'est notre misère. En conséquence du péché originel, notre nature est blessée et ce n'est pas difficile de s'en apercevoir. Notre intelligence, elle est faite pour le bien et nous nous trompons souvent. Notre volonté est faite pour vouloir le bien et elle est souvent attirée par de faux biens. Elle fait mal. Quant à nos passions, eh bien, elle nous emporte, elle nous aveugle. Voilà ce que nous sommes. Et sans notre Seigneur, qui seul peut guérir notre nature, nous ne pouvons rester longtemps sans faire le mal, sans pécher, à cause de cette blessure. Alors, si nous voulons vivre dans la vérité, ce qui est le propre de l'humilité, nous n'avons qu'une seule attitude possible, reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et en vivre. Et c'est d'ailleurs ce que nous fait demander l'oraison d'aujourd'hui. Que votre grâce nous prévienne, c'est-à-dire qu'elle nous pousse à agir. Que votre grâce nous suive, c'est-à-dire qu'elle nous accompagne dans l'action. Et on demande au bon Dieu qu'elle soit toujours là pour que nous puissions vivre dans la dépendance de sa grâce. Pour une créature, reconnaître sa dépendance à l'égard du Créateur, cela a un nom, c'est l'adoration. L'adoration, écrit un bénédictin, c'est la reconnaissance de notre dépendance absolue en face de celui qui seul est, par lui-même, la plénitude de l'être. C'est reconnaître que nous sommes les sujets du souverain de l'univers. Quand une créature ne se tient pas dans cette attitude, elle n'est pas dans la vérité. Alors, eh bien, elle vit dans l'illusion, et c'est dramatique de voir que la plupart des hommes aujourd'hui passent toute leur vie dans l'illusion. Quel malheur ! Prions vraiment pour que cela ne nous arrive pas. Mais il ne suffit pas, bien sûr, de reconnaître cette dépendance en théorie. Il faut en vivre. Quand l'âme est remplie de révérence envers Dieu, continue notre bénédictin, elle se soumet à lui, elle lui obéit. C'est-à-dire qu'elle accepte le plan de Dieu sur sa vie. Le meilleur hommage, la meilleure preuve de confiance et d'amour que nous puissions donner au bon Dieu, eh bien, c'est d'accepter son plan sur notre vie. Et il en a un. L'obéissance au plan de Dieu sur notre vie, c'est l'expression pratique, concrète, de notre humilité, de notre adoration, de notre amour envers Dieu. Alors évidemment, cela commence par l'obéissance de la partie la plus élevée de notre être, notre intelligence. C'est la foi. La foi, ce n'est pas un vague sentiment sensible. La foi, c'est une obéissance. Parce qu'il s'agit d'accepter tout ce que Dieu nous a révélé par son Fils et qu'il nous a enseigné par l'Église qu'il a fondée, lorsqu'elle parle infailliblement, bien sûr. Et c'est cette obéissance que, par orgueil, refusent toutes les sectes protestantes et tous ceux qui refusent la révélation. Ils ne veulent pas soumettre leur intelligence. Et même dans l'Église aujourd'hui, on en prend et on en laisse. Mais il faut faire attention parce que sans la foi, sans cette obéissance de notre intelligence à la révélation, eh bien, personne ne peut plaire à Dieu, dit saint Paul. Pour être sauvé, il faut commencer par croire à la parole de celui qui ne peut pas se tromper et qui ne peut pas nous tromper. Mais d'ailleurs, c'est évident. Après l'obéissance de notre intelligence, il y a l'obéissance de notre volonté. D'abord, en nous soumettant aux moyens que notre Seigneur a institués pour que nous puissions parvenir au but surnaturel de notre vie. La prière, les sacrements. Il faut que nous passions par là, par la prière, il faut que nous allions nous confesser, il faut que nous recevions la Sainte Communion, les sacrements de l'Église catholique. Beaucoup d'hommes aussi ont un vague sentiment de Dieu, mais ne veulent pas passer par là, la pratique du dimanche, etc. Non. Et nous soumettre aux moyens que notre Seigneur a institués, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'espérance surnaturelle. C'est-à-dire, nous n'espérons pas en nos propres forces pour être sauvés, mais pour être sauvés, nous nous appuyons sur les secours que nous tend notre Seigneur. Il faut être bien persuadé que toutes nos chutes viennent de ce que nous ne nous sommes pas assez appuyés sur le bon Dieu. Nous avons cru être suffisamment forts, nous avons pensé que ce n'était pas la peine aujourd'hui de prier davantage, que ce n'était pas la peine de nous confesser plus souvent, d'aller de temps en temps à la messe dans la semaine parce que ce serait possible, c'est pas trop loin. Encore, nous avons eu l'imprudence de jouer avec les tentations parce que nous nous pensions forts, voilà, nous ne sommes pas appuyés sur notre Seigneur et sur ses conseils, veillez et priez. Et puis l'obéissance de notre volonté consiste aussi à nous soumettre à la volonté de Dieu, non pas seulement en allant recevoir les sacrements, mais dans tous les instants de notre vie. Et là, c'est la vertu de charité. La charité, ce n'est pas encore un vague sentiment humain d'amour, etc. La charité, c'est une vertu surnaturelle, infuse par Dieu dans notre âme et qui unit notre volonté à la volonté du bon Dieu. Et nous avons la chance d'avoir une telle vertu, d'avoir cette charité, parce que notre volonté est si faible et si fragile. Remercions le bon Dieu qu'il l'unisse à la sienne par cette vertu de charité. C'est la charité qui nous permet de faire cette volonté du bon Dieu à tous les instants. Mais comment s'exprime, comment se manifeste cette volonté de Dieu sur nos vies? Que faut-il faire? Eh bien d'abord, obéir aux commandements, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, pour les religieux, leurs règles. Et puis cette volonté de Dieu s'exprime aussi souvent par des supérieurs. C'est le plan de Dieu. Dieu a voulu qu'il y ait des hiérarchies sur terre, dans la famille, au travail, dans la cité, dans l'Église. Et il faut voir dans ces hiérarchies, dans le domaine qui est le leur, bien sûr, des intermédiaires de Dieu pour nous manifester sa volonté. Par exemple, il est très important d'apprendre aux enfants à se tourner aussitôt vers notre Seigneur lorsqu'on leur donne un ordre, afin qu'ils obéissent parce que c'est la volonté de notre Seigneur, afin qu'ils obéissent pour notre Seigneur. Et c'est cela d'ailleurs qui fait que l'obéissance, disent les auteurs spirituels, c'est la vertu la plus proche des vertus de foi, d'espérance et de charité qui concernaient notre vie d'union à Dieu. Parce que l'obéissance surnaturelle, pour être vécue, pour être acceptée, nous oblige à nous tourner vers Dieu, à faire un acte d'abandon et d'amour à sa volonté. L'obéissance, c'est le début de la vie intérieure, et il n'y a aucune vraie vie intérieure sans elle, parce que la vie intérieure consiste essentiellement à être unie à la volonté de Dieu, ce que ne sont pas les désobéissants. Bien sûr, si ces autorités, pourtant voulues par Dieu, faut toujours le redire, demandent d'obéir à des ordres qui mettent en danger la foi et la morale, elles ne sont plus à ce moment-là les intermédiaires de Dieu, et elles n'ont aucun titre à être obéies, même dans l'Église. Enfin, la volonté de Dieu ne se manifeste pas seulement par ses commandements et ceux des supérieurs qui le représentent, elle se manifeste aussi par les événements de la vie. Les événements providentiels, événements heureux, événements, les épreuves, tout cela voulu, permis par Dieu, par sa providence qui est infaillible, toujours pour notre plus grand bien, même si nous ne comprenons pas pour le moment, et il faut dire notre fiat à la volonté de Dieu à ces moments-là. Et c'est alors qu'il faut nous tourner vers l'exemple suprême d'humilité, d'adoration, d'obéissance, notre Seigneur Jésus-Christ, obéissant à la volonté de son Père jusqu'à la mort de la croix, réparant par son obéissance les désobéissances de tous nos péchés, réparant par les humiliations de sa passion les révoltes de notre orgueil. Mais l'humilité qui nous fait vivre dans la dépendance envers Dieu, envers la volonté de Dieu, l'humilité a aussi des conséquences dans nos rapports avec le prochain. Là aussi, il faut bien la comprendre. L'humilité n'exige pas de se mettre en dessous de tous, dit saint Thomas d'Aquin. De toute façon, blessé par le péché originel, ce n'est pas tellement notre tendance de nous mettre en dessous. Nous avons plutôt tendance à nous mettre au-dessus des autres, à nous enorgueillir de nos qualités, à être très sûrs de nos jugements, à ne pas demander beaucoup de conseils, à ne pas accepter les remarques facilement. C'est nous. Alors, si l'on se rappelle que l'humilité consiste à vivre dans la vérité, alors il y a trois vérités à considérer ici. Premièrement, par rapport à nos propres talents et capacités naturelles et surnaturelles, et tout le monde en a, le bon Dieu en a donné à tout le monde, n'oublions jamais que nous les avons reçus de Dieu. Tout ce qui est défaut vient de l'homme, dit saint Thomas d'Aquin. Tout ce qui est qualité, perfection, est divin, vient de Dieu. Et c'est pour cela que saint Paul n'hésite pas à dire, et ça il faudrait l'apprendre par cœur, pour nous le redire quand nous avons des tentations d'orgueil, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Deuxième vérité, ce que nous avons reçu nous a été donné de Dieu pour le faire fructifier, c'est la parabole des talents, pour nous en servir pour la gloire de Dieu et pour faire du bien autour de nous. Est-ce que nous sommes certains que nous avons vraiment fait fructifier nos talents autant que Dieu le voulait et pour faire le bien qu'il voulait? Pour rester dans l'humilité et ne pas nous enorgueillir, pour l'humilité, c'est-à-dire dans la vérité, et pour ne pas nous enorgueillir, il faudrait souvent nous poser cette question qui est très grave, car à la fin de notre vie, Dieu examinera ce que nous avons fait pour lui et pour le prochain avec les dons et les talents qu'il nous a donnés. Troisième vérité, réalité, eh bien c'est celle de nos défauts. Quand l'orgueil commence à monter et que nous jugeons sévèrement ceux qui font le mal, qui vivent mal, qui ne sont pas traditionnalistes ou autres, disons-nous avec saint Augustin, il n'est pas de péché commis par un autre homme que je ne puisse commettre à raison de ma propre fragilité. Et si je ne l'ai pas commis, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, ne l'a pas permis et m'a converti dans le bien. Demandons à la très sainte Vierge Marie, modèle parfait d'humilité et d'obéissance après notre Seigneur, eh bien qu'elle garde en notre âme cette vertu d'humilité, sans laquelle toutes les autres vertus ne serviront qu'à notre perte. Si nous avons toutes les vertus et que nous sommes orgueilleux, nous allons à notre perte. Tandis que celui qui est humble aurait-il les plus grandes difficultés à pratiquer les autres vertus, eh bien celui-là marche certainement vers le ciel, car il se relèvera toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Thank you.